TV Magazine, nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction avec notre invité. Notre invité, c'est un globe-trotteur, un spécialiste des, des régions polaires. Et pourtant, il apporte une certaine chaleur humaine, si forte parfois d'ailleurs dans ses émissions, qu'il pourrait faire fondre la banquise. Il est auteur, réalisateur, journaliste, aussi guide touristique. Ce passionné n'hésite pas à investir tous les terrains pour communiquer sa passion de la découverte et du voyage, y compris pendant cette période de pandémie. Il a fait vibrer les ondes de RFI et Radio France, c'était dans les années 2000. Il a également œuvré dans les coulisses, dans le rendez-vous en terre inconnue, également nos terres inconnues. Il a également fait partie de la bande de chroniqueurs de La Quotidienne, c'était sur France 5. Et depuis plus de deux ans, il nous envoie du rêve par paquet de 12, comme on pourrait dire, dans un magazine d'évasion, très regardé. Ismaël Khalifa, bonjour.
Bonjour, merci pour ce portrait.
Bienvenue dans le Buzz Télé. Je rappelle, France 5, première partie de soirée, un nouveau numéro de Échappée Belle que vous incarnez. Vous n'êtes pas tout seul, d'ailleurs, on va en parler. Cette fois-ci, vous avez choisi de vous envoler pour la Martinique, en compagnie du nageur paralympique Théo Curin. Avant de parler de cette escapade et de ce tournage, une petite question qui nous... Allez, on se lance. Est-ce que c'est pas trop difficile finalement d'exercer ce métier, d'être payé finalement pour voyager tous les jours ?
Ah, bonne question. Alors, c'est un cadeau de la vie. Je crois que vraiment, il faut le dire, moi, c'est entré dans ma vie à l'âge de 39 ans, donc j'ai fait énormément de choses avant. Quand j'avais 15 ans, je regardais Thalassa avec mon grand-père, quand j'avais 8-10 ans, et je me disais, je veux vivre comme dans les films documentaires. Je me souviens que c'était notamment l'histoire de chasseurs de baleines en Arctique, où je m'étais dit, mais je veux voir ça de mes propres yeux. Et donc, jamais j'aurais pensé faire ça dans ma vie. Donc, quand à 39 ans, on me l'a proposé, j'étais à l'époque guide naturaliste au Groenland et en Antarctique. Je ne vous cache pas que j'ai un peu halluciné. Quoi. Et donc, je mesure tous les jours que c'est un cadeau de la vie. Et après, par contre, c'est un travail. C'est ce dont je me suis rendu compte.
C'est aussi un métier.
Oui, parce qu'il y a quand même des choses. Moi, je pars, 110 jours par an pour le travail. Donc, on laisse la famille 110 jours. Il y a beaucoup d'arrangements logistiques à trouver en famille pour que ça se passe bien. Et puis, sur le terrain, on fait de très gros horaires. Il y a pas mal de pression. Donc, c'est quand même un métier. Mais après, franchement, c'est le plus beau métier qu'on puisse faire. Enfin, je ne vais pas me plaindre. J'ai fait des métiers qui étaient bien plus compliqués avant. Donc, j'en suis très heureux, vraiment.
Vous voyagez pour votre métier. Est-ce que vous avez encore du plaisir quand vous voyagez personnellement, vous, ou avec votre famille, finalement? Ou est-ce que vous avez déjà tout vu? Il n'y a plus rien qui, finalement, ne vous bluffe?
Ah non, alors moi, je crois que pour faire ce métier-là, d'ailleurs, il faut s'émerveiller d'à peu près tout. Moi, je vis à Aix-en-Provence en ce moment. J'étais dans la montagne de la Sainte-Victoire il y a 4 jours. C'était fabuleux, alors que je l'ai vu 200 000 fois, cette montagne. Donc, je crois que si on n'a pas ce regard-là, c'est très difficile de faire ce métier-là. Je pense que le jour où on commence à arriver de manière très mécanique, à dire bonjour de la même façon que les 4 émissions d'avant et de poser les mêmes questions et que ça devient une mécanique. Enfin, un si beau métier ne peut pas être une routine, c'est impossible. Donc après, il faut savoir se retirer si c'est le cas. Mais en tout cas, pour moi, ça reste quelque chose de fou. Et quand j'emmène mes enfants, maintenant en plus en voyage, même si j'ai peu voyagé avec eux, ça se passe à travers le truchement de leur regard. Et donc ça devient non pas mon voyage, mais notre voyage à tous. Ça décentre tellement les enfants, surtout quand on est animateur. Qui est quand même un métier, on est seul face caméra, c'est des métiers d'ego quand même, que quand on est avec les enfants, d'un coup, la magie opère parce qu'on est tous ensemble. Quoi.
On reste dans la magie, nous sommes en direct, je rappelle Ismaël Khalifa, sur Figaro Live, diffusé à la fois sur la page figaro.fr, mais également la page YouTube de TV Magazine, où nous sommes récemment lancés. Que pensez-vous des escapades diffusées dans Échappée Belle? Est-ce qu'il y a trop d'émissions d'évasion aussi sur le service public? On en parlera avec notre invité. Est-ce que vous aimeriez voir également, Ismaël, dans d'autres genres, d'autres types d'émissions? Dites-nous tout. En attendant, on va retrouver tout de suite, comme tous les jours, pour les news médias, Damien Canivez. Bonjour Damien.
Bonjour Philippe, c'est lui Ismaël.
Bonjour Damien.
Rendez-vous habituel, commence ces news médias par les audiences télé de la veille.
Comme d'habitude et comme toujours, c'est M6 qui monte sur la première marche du podium avec la suite de la 12e saison de Top Chef, ce concours culinaire, animé par Stéphane Rothenberg, a rassemblé 3,4 millions de gourmands, soit 15,4% de part d'audience, ce qui est un score parfaitement stable par rapport à la semaine dernière. TF1 sur la deuxième marche du podium diffusait quant à elle 2 épisodes inédits de The Resident Patient, la série médicale, a rassemblé 3,1 millions de fidèles, ce qui représente 13,1% du public. Sur la troisième marche du podium, on retrouve cette fois-ci France 2 avec L'école de la vie, cette fiction portée notamment par Guillaume Labbé qui était hier à votre place sur ce plateau, eh bien, gagne 200 000 téléspectateurs quand même sur une semaine. C'est un score en hausse qui est encourageant pour cette série française. Et enfin, on termine avec France 3 qui se trouve au pied du podium mais qui aussi signe un score en hausse par rapport au dernier numéro. Il s'agit de La carte au trésor animée par Cyril Ferraud. L'animateur se trouvait cette fois-ci dans l'Allier avec ses hélicoptères. Un peu plus de 2 millions de téléspectateurs ont répondu présent.
La carte au trésor, justement, c'est une émission aussi qui fait voyager. Est-ce que vous aimeriez justement incarner, comme Cyril Ferraud, un jeu autour du voyage, de l'évasion?
Oui, ça pourrait me plaire. Juste, je suis très impressionné parce que Damien fait ça sans notes. Donc, bravo.
En fait, il vaut mieux parce que je n'arrive pas à me relire, si vous voulez, voyez.
il est très fort. Animer un jeu, oui, je trouve que ça peut être passionnant parce que je trouve un lien avec les téléspectateurs qui est très particulier. Finalement, ce qui est très fort, moi, j'ai travaillé à Rendez-vous en Terre Inconnue, je trouve, dans la télé, c'est qu'on filme le réel. Et donc, les émissions qui ont une puissance émotive, émotionnelle, scénaristique, etc., je trouve que des fois, c'est plus fort que la fiction parce qu'on est dans la réalité, dans les réactions des gens, dans la manière, enfin les enjeux se créent d'eux-mêmes. Et donc je trouve qu'à travers le jeu, moi je suis un passionné de scénarisation, on peut vraiment créer une montée en puissance, être dans une interaction incroyable avec les gens qui regardent et ouais je trouve ça passionnant. Moi je suis un grand consommateur des jeux télé et même de toutes ces émissions Top Chef ou, ah oui. Ou le meilleur pâtissier, etc. Enfin ça me fascine moi tout ça.
Mais vous me mettez de l'eau à la bouche. Ah, oui. On poursuit ces infomédias avec M6 qui a dévoilé de son côté le dispositif pour le prochain Euro.
Ah oui, si vous êtes amateur de football, vous allez aussi avoir l'eau à la bouche puisque je rappelle que la compétition... Oui, effectivement, la chaîne détient avec TF1 les droits de retransmission pour cette compétition européenne qui se tiendra donc du 11 juin au 11 juillet prochain. M6 lance d'ailleurs même les festivités avant cette période puisque le mardi 18 mai, le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps annoncera dans le 19h45 de la chaîne, qui est un peu le JT du soir, la liste des joueurs retenus et répondra aux questions de Marie Portolano, qui pour la première fois apparaîtra sur la chaîne depuis son départ du groupe Canal. Alors la direction de la chaîne a prévu, là vous allez le voir, un dispositif assez appétissant autour des matchs qui seront diffusés sur cette chaîne. Avant l'arrivée des joueurs sur le terrain, Marie Portolano tiendra les rênes d'un magazine intitulé 100% Euro l'avant-match, où là on va, comme le nom l'indique, planter un petit peu le décor. Pendant la rencontre, c'est Xavier Domergue et Robert Pires qui commenteront la rencontre, avec cette fois-ci encore la journaliste Karine Galli sur le bord du terrain. Et enfin, Marie Portolano conclura la soirée avec deux magazines, 100% Euro l'après-match, où elle débriefera la rencontre en compagnie d'experts du football et puis également d'autres consultants. Et puis enfin, 100% Euro le mec, qui cette fois-ci sera une sorte de résumé de toutes les rencontres qui se seront déroulées au cours de la journée. Et autre info extrêmement importante et qui est aussi importante pour M6, c'est que la chaîne va pouvoir diffuser la finale de l'Euro. On sait que c'est très disputé avec TF1. Et bien cette fois-ci, pour la deuxième fois d'ailleurs de son histoire, c'est M6 qui diffusera le dernier match de cette compétition.
Outre M6, c'est TF1 également a dévoilé un dispositif d'envergure puisqu'il partage en effet les matchs sur ce prochain rendez-vous sportif. Marie Portolano, dont on parlait, elle a fait beaucoup parler d'elle il y a quelques semaines avec son documentaire où elle dénonçait le sexisme dans le journalisme sportif. Est-ce que vous-même, dans votre carrière, vous avez été victime de certaines formes de discrimination ou pas ?
À titre personnel, honnêtement, non. Par contre, j'ai assisté à des choses qui, aujourd'hui, avec le recul, me paraissent inacceptables. Et je trouve bien que... on puisse prendre la parole sur ces sujets aujourd'hui. Moi, il m'est arrivé dans des rédactions, je pense que le journalisme était un milieu beaucoup moins féminin par le passé, il m'est arrivé dans des rédactions d'accompagner des collègues femmes dans le bureau du rédacteur en chef parce qu'on savait qu'il était un peu, comme on disait. Et ce qui est fou, c'est que je ne dirais pas que ça nous paraissait normal, mais on s'était habitué à vivre avec ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est bien de nous alerter sur ces sujets pour que nous aussi, en tant qu'hommes, parce qu'il y a des hommes qui réprouvent ce genre de choses, on puisse avoir le réflexe d'agir. Vous savez, c'est de ne pas être la gazelle tétanisée qui attend de se faire manger, mais qui puisse dire non, stop, c'est inacceptable. Et donc, collectivement, on dit stop. Donc après, il y a beaucoup de polémiques. Ce sont des débats qui deviennent des débats de société, parfois très mal portés, quel que soit d'ailleurs le camp qui les porte, je trouve. Mais en tout cas, dans le fond, dans l'essentiel, merci à ces femmes d'avoir le courage de parler et de nous dire à nous, en tant qu'hommes, aidez-nous dès que vous le pouvez. Voilà, je trouve que pour ça, c'est important.
Libérons la parole.
Oui, ça peut servir.
On termine ces infos médias avec l'émission qui devrait remplacer Les Amours, parce que Les Amours, c'est fini la rentrée
oui.
prochaine.
C'est triste, on l'a regardé bien, nous, ici, au Buzz TV, cette émission, et on vous avait d'ailleurs annoncé ici que ce jeu, désormais animé par Bruno Guillon, ce n'était plus Tex, chaque jour à 11h15 sur France 2, allait s'arrêter après 26 ans, quand même, à l'antenne, et ce, en dépit d'ailleurs même des 900 000 téléspectateurs qui regardaient chaque jour, l'émission rassemblait encore de nombreux téléspectateurs. Alors, la direction de France Télévisions est en train de plancher sur une nouvelle émission, et selon nos confrères du Parisien, trois programmes seraient pour le moment en compétition. Le premier, un jeu de culture générale intitulé « Chacun son tour », dans lequel des candidats se succèdent en plateau face à un champion. Le but, c'est de lui chipper sa place et peut-être remporter jusqu'à 250 000 euros. Le deuxième projet, cette fois-ci, c'est une création française, et oui, signée Dominique Ambiel, qui s'appelle « Une équipe formidable » où deux équipes de potes, par exemple, s'affrontent un petit peu comme dans « La famille en or », mais la seule différence, c'est que cette fois-ci, il s'agit encore de culture générale. Et enfin, le troisième divertissement repose aussi sur le savoir, même si on ne connaît pas encore son titre. Quoi qu'il en soit, nos confrères du Parisien précisent que quoi qu'il arrive, quel que soit le projet qui sera retenu, c'est Bruno Guillon qui restera aux commandes de cette case, donc à 11h15.
Voilà. On garde Bruno Guillon.
Bah oui, on garde Bruno Guillon. Bah, 900 000 téléspectateurs, quand même, c'est pas mal.
C'est une belle audience. Hein.
C'est une belle audience.
On se rend compte que France Télé a pas mal fait le ménage quand même depuis 2-3 ans, en effet, dans ces grilles. Est-ce que vous-même, à chaque fin de saison, vous tremblez en disant est-ce que je serai à la rentrée prochaine sur les écrans de France Télé, ou finalement vous dites c'est la vie de la télé, c'est comme ça et on verra bien ce qui se passe?
Je pense que... Alors moi, je fais ce métier d'animateur depuis 2 ans et demi maintenant, et j'ai un beau-frère qui était footballeur professionnel, et j'ai l'impression qu'on vit un peu la même chose tout le temps. C'est-à-dire qu'on sait que ce sont des métiers très fragiles, que ça peut changer du tout au tout, sans réelle raison objective. En tout cas, les bonnes audiences ne vous protègent pas forcément. Mais bon, d'un autre côté, ça va avec ce métier, on le sait en y arrivant, et puis c'est le sel de la vie. Donc moi, j'essaye de me dire, déjà je vis ça aujourd'hui, profites-en à fond, parce que c'est une expérience personnelle aussi très forte. Et puis si ça s'arrête, eh bien, la vie continuera malgré tout. Voilà. Il faut accepter qu'on ait des figures de passage finalement, je crois.
C'est pourtant bientôt la fin de la saison.
Oui.
Pour l'ensemble des chaînes, vous avez déjà des garanties en effet quand on vous retrouvera à la rentrée
ou pas? Alors Échappée Belle repart la saison prochaine. Moi je vais commencer mes tournages
de la
saison.
Belle repart de plus belle.
Pas mal.
On ne nous la fait jamais.
On l'avait écrite celle-là.
Ouais. Ouais. Et à la fin, il va me dire, vous l'avez échappé belle, c'est sûr.
Je la retiens aussi.
Non, mais on a l'habitude. Mais oui, on repart la saison prochaine. Mais après, voilà, il faut prouver chaque semaine, chaque saison, qu'on est capable de se réinventer, d'aller de l'avant. L'émission, d'ailleurs, qui a lieu samedi en Martinique, où on part à deux animateurs, c'est une première. C'est aussi dans une volonté de démontrer qu'on est capable de créer, toujours créer, toujours
avancer. Se renouveler.
Oui, c'est extrêmement important. Le public, je pense, attend ça beaucoup de nous. Je trouve que c'est un savant mélange entre respecter le public historique, qui vient depuis des années et qui est là avec un attachement. Il y a un attachement très fort quand même aux émissions. On le voit bien quand une émission est supprimée, ce que ça génère. Mais en même temps, se tourner vers de nouveaux publics, proposer de nouvelles choses. Et voilà, donc c'est... Moi, je trouve ça assez passionnant et ça ne me fait pas peur à titre personnel, parce que je suis peut-être un peu bouddhiste, mais si ça s'arrête, il y aura d'autres choses dans la vie. Voilà.
De la sagesse intérieure.
Il vaut mieux le vivre comme ça. Hein.
Franchement. Merci Damien pour CNews Media. Et on se retrouve tout de suite avec notre invité pour l'interview du Buzz Télé. Alors, vous présentez un nouveau numéro, vous venez de le lire, du magazine Échappée Belle, ce samedi en prime time, je rappelle, sur la chaîne France 5, un voyage exceptionnel au cours duquel vous allez mettre les voiles direction la Martinique. Pour quelles raisons vous avez choisi justement de vous diriger vers cette région d'outre-mer située au cœur des Caraïbes?
Alors, ce qu'on s'est dit pour cet épisode, c'est qu'on avait envie de le lier à la pandémie que nous sommes en train de vivre et qu'on avait envie de donner de l'espoir aux gens, en tout cas d'aller voir des personnes qui prenaient les choses en main, qui étaient, ce mot est très utilisé en ce moment, mais dans une forme de résilience. Et ce qui est intéressant dans les Antilles, c'est que ce sont des endroits qui sont soumis à des aléas climatiques, à une violence de l'histoire, à des problématiques diverses et variées, qu'elles soient économiques, etc., et où les gens ont l'habitude, de par leur éloignement avec la métropole, de prendre les choses en main, de se débrouiller et de chercher des solutions. Et on s'est dit, on va aller là-bas, ça fera du bien d'avoir un soleil comme ça, en plein milieu de cette année morose, et on va aller rencontrer des gens formidables qui vont nous donner la pêche, qui vont nous donner l'envie et nous dire que c'est possible, qu'il y a de l'espoir. Voilà.
Alors, autre personnalité formidable, vous avez invité le nageur paralympique Théo Curin, médaillé à plusieurs reprises, en le rappelant des compétitions international. C'est plutôt un fait exceptionnel. Pourquoi cet athlète vous a-t-il accompagné ?
Eh bien, avec Théo, on s'est rencontré par l'entremise du producteur de l'émission, Alain Goury, qui a eu le feeling qu'entre nous, ça se passerait très bien. Et au bout de 5 minutes, il y a des gens comme ça, on est devenus amis. Donc, on s'écrit tous les jours des petits messages, on s'appelle. Et ce garçon donc, est quadri-amputé. Il a été malade à l'âge de 6 ans. On a dû lui couper les deux bras, les deux jambes. Et il s'est construit un mental et une façon de voir la vie avec un optimisme incroyable, sans nier la réalité de ce qu'il vit. Et ce qui est formidable, c'est qu'au bout de 24 heures, je suis parti avec une personne quadri-amputée en me disant bon, bah, comment ça va se passer, on ne pourra pas faire le film comme d'habitude, mais tout ira bien. Et au bout de 24 heures, j'étais juste avec un garçon extraordinaire, quoi. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça, c'est pour proposer encore une fois quelque chose de nouveau. C'est quelqu'un de plus jeune que moi, il a 21 ans, j'en ai 41, et donc ça nous permettait d'aller nous adresser aussi à d'autres personnes.
Alors vous allez vous adresser à d'autres personnes, est-ce qu'il y a les rencontres qui vous ont le plus marqué justement au cours de ce voyage ?
Alors, pour moi, personnellement, il y a deux jeunes filles qui ont décidé, alors c'est très parlant pour moi, elles ont une trentaine d'années, ce sont des jeunes filles qui ont fait Sciences Po, de grandes études, elles pourraient être à New York, Londres, Paris, Singapour, où vous voulez, et elles ont décidé de revenir en Martinique pour créer un réseau d'agriculteurs bio pour faire face aux problèmes liés notamment au chlordécone, vous savez, cette substance qui a été utilisée notamment pour la culture de la banane. Et donc, elles veulent que les gens mangent bien sur leur île, prendre soin des leurs à travers l'agriculture. Et donc, malgré ces grandes études, elles sont venues faire quelque chose de beaucoup plus simple sur leur île, de très moderne. Et il y a quelque chose comme ça, un élan de modernité qui est fabuleux, parce qu'à la fois, elles sont ancrées chez elles, dans ce lieu qu'elles aiment, et en même temps, elles sont ouvertes au monde entier. Et je crois que ces deux filles... Enfin, elles ont un respect des anciens, des traditions, de tout ce qui fait leur île, et en même temps, elles sont dans le monde d'aujourd'hui. C'est un bel équilibre, je trouve, très inspirant.
Damien, des premières réactions aux questions.
Oui, exactement. On est en direct sur la page YouTube de TV Magazine, on est également sur lefigaro.fr et aussi sur Twitter, puisqu'on a une question qui nous vient tout droit de ce réseau social, une question de Caroline, qui aimerait savoir quel est votre meilleur et votre pire souvenir lors d'un tournage.
Alors, bah, merci Caroline pour cette question. Des fois, on dit que c'est difficile, mais moi, le meilleur, je l'ai vraiment en tête, c'est quand j'ai commencé Échappée Belle, j'étais en Mauritanie, au beau milieu du désert du Sahara, j'étais arrivé depuis 5 minutes, on commence à tourner, j'étais un peu stressé parce que c'est quand même pas évident. Et là, je rencontre mon personnage et d'un coup, le ciel commence à devenir noir, il y a une tempête de sable qui se lève, il y a une panique terrible qui commence dans la petite ville où on était. Et là, la pluie s'abat, 2 jours de pluie, il y a eu des inondations hallucinantes, il n'avait pas plu comme ça depuis 35 ans dans ce village. Donc, vous imaginez des inondations dans le Sahara pour commencer Échappée Belle. Waouh,
c'est quand même inattendu.
Et donc ça, c'est le meilleur souvenir parce qu'après, j'ai compris que, en gros, le but, ce n'était pas de faire un tournage, c'était de vivre un voyage et de le partager. Et puis là, on ne réfléchissait plus, en fait, on y allait. Et le pire souvenir, bah, on a une mémoire sélective, hein, donc j'ai du mal à me souvenir de pires souvenirs. Mais en tout cas, je crois que j'étais un moment au Mexique avec un grand chef qui cuisine des insectes. Ouais. Et là, il me dit, Ismaël, tiens, tu vas goûter un truc formidable, il me sort un scorpion enrobé de chocolat. Ah. Et donc ça, c'était la petite douceur après le café. Waouh, et c'était quand même méga violent.
Vous l'aviez mangé.
Voilà,
vous l'aviez.
Non, j'ai pas réussi, donc je me suis contenté d'un grillon enrobé de chocolat.
Ah, c'est pas mal.
Et voilà, mais bon, j'ai pas trop adoré. Mais bon, voilà, c'était quand même un moment drôle et à travers lequel on apprenait beaucoup aussi sur cette culture et la façon de cuisiner dans ce pays.
Et vous avez survécu.
Tout à fait, tout va bien. On a très peu de pires souvenirs à Échappée Belle, honnêtement.
On rappelle que vous n'êtes pas le seul visage qui incarne la marque Échappée Belle. Vous partagez Destination avec Sophie Jovillard, Tiga ou Jérôme Pitorin. Je rappelle, c'est rare que des animateurs, comme ça, dans des émissions, prennent tour à tour les rênes du programme. Pour quelles raisons il y a eu ce choix, en effet, de porter le programme à travers 4 visages différents?
Eh bien, parce que je crois déjà qu'à Échappée Belle, la star, c'est l'émission. D'ailleurs, on le voit puisque les audiences sont constantes. Et donc, ça crée aussi un rapport avec les gens qui est très différent. Il n'y a pas une starification de l'animateur. Et ensuite, il y a des raisons logistiques. On fait 35 émissions cette saison. Vous imaginez, moi, je pars déjà 110 jours par an. Donc, si on le faisait tout seul, Sophie l'a fait pendant longtemps toute seule. Waouh, bravo quoi. Enfin, faudrait lui construire un temple parce que
pas de vie, pas de famille.
Bah, en tout cas, il y a un moment où votre vie est consacrée à cela. Et là, je trouve qu'en plus le fait d'avoir 4 visages différents, c'est 4 approches radicalement différentes du voyage, de l'autre, de la rencontre, de la découverte. Et je crois que c'est aussi pour fédérer des publics différents que ces 4 visages sont là. Donc, moi, je suis très attaché à cette diversité. Et j'étais très client d'Échappée Belle avant d'y travailler. Et d'ailleurs, je raconte toujours à Sophie, Jérôme et Tiga que quand j'étais guide touristique, je dînais avec mes passagers. Et je crois qu'il n'y a pas un soir où on ne parlait pas de qui est ton animateur préféré à Échappée Belle. Et ça s'écharpait beaucoup. Donc voilà.
La bataille. Est-ce que par rapport aux destinations, on sait qu'il y a des destinations et des voyages qui font rêver davantage que d'autres. Comment vous les répartissez? Il y a une vraie bagarre? C'est un tirage au sort?
Non, pas du tout. À chaque fin de saison, on exprime ce qu'on aimerait faire. Et après, la production fait des propositions également. Et souvent, elle propose des choses qui sont soit en lien avec notre profil, soit complètement décalées pour nous sortir de notre zone de confort. Et on essaye au maximum d'aller dans des endroits où nous ne sommes jamais allés. À moins que, comme Jérôme, là, il a fait ses Deux-Sèvres natales récemment, eh bien, on aille vraiment présenter un grand coup de cœur. Mais c'est un peu comme ça que ça se répartit. Puis après, il y a une question de planning aussi. Donc, moi, je devais faire, par exemple, la Jordanie récemment, mais ça ne correspondait pas au planning. Donc, c'est un autre qui va le faire. Enfin, voilà. Il y a à la fois des désirs personnels, une vision du producteur par rapport à ce que ça peut donner avec l'un ou l'autre, l'une ou l'autre, et ensuite une question d'agenda. Voilà.
Damien, une réaction?
Oui, on va prendre une question de Thibault qui aimerait savoir comment vous avez vécu votre dernière expérience naturiste. C'est vrai qu'on va recontextualiser parce que la question est bizarre. C'est-à-dire que vous êtes prêté au jeu, c'est ça? C'était lors d'une émission dans le Var, je crois.
Oui, c'était les îles de la Méditerranée qui est passée samedi. Donc parmi ces îles, on allait faire l'île du Levant, qui est une île qui a une grande histoire avec le naturisme, où j'ai été accueilli. Et comment je l'ai vécu? Écoutez, extrêmement bien. J'étais pas du tout obligé de me mettre nu dans cette séquence, mais j'ai décidé de le faire parce que les gens qui m'ont accueilli, j'ai compris qu'en fait, si je ne le faisais pas, je ne pourrais pas ressentir ce qu'eux vivent. Il y aurait un côté immersif, ça aurait été très intellectuel de m'entendre dire à quel point c'était formidable, mais j'avais besoin de le vivre moi-même. Et j'ai adoré ça parce que la jeune fille avec qui j'étais m'a dit, tu vois, pour moi, c'est plus difficile de mettre un maillot de bain que de me mettre toute nue. Ouais. Et c'est vrai qu'on est souvent tous un peu complexés là, à mettre nos maillots de bain sur la plage, rentrer le ventre et tout. Et là, une fois que vous êtes à nu l'un devant l'autre, beaucoup de barrières sont brisées et finalement on n'est pas dans le paraître, on est vraiment dans l'échange très sincère. Et ce qui est fou, c'est que j'étais entouré d'autres gens nus, je ne suis même pas capable de vous dire à quoi ils ressemblaient. Ouais. C'est-à-dire que ce n'était pas ça qui me marquait. Après, ça a fait des moments assez forts avec l'équipe avec qui j'étais parce que vous mettez tout nu devant vos collègues de travail. Mon but en tout cas, c'est de parler de ces gens sans ricanement. Ouais. Mais avec beaucoup de respect, et puis peut-être de montrer un corps normal, entre guillemets. Alors, la normalité, on peut en discuter des heures, mais en tout cas, un corps pas sorti de magazines de mode à la télé. Je trouvais ça bien de me montrer, moi. Ça fait peut-être du bien à des gens qui nous regardent.
Mise à nu.
Oui.
Exactement. La grande majorité des voyages auxquels vous participez se passent en France. Et il y a une raison particulière, justement, que c'est pas possible de partir. Alors, c'est vrai que c'est plus compliqué aujourd'hui, on voit les voyages et... avec la pandémie, mais est-ce qu'il y a une raison particulière que vous n'alliez pas plus souvent à l'étranger ?
Il y a plusieurs raisons. Je pense que déjà, il y a une raison...
budgétaire aussi, j'imagine, de production ?
Évidemment, oui. Mais aussi, il y a une raison que les destinations françaises, les Français adorent leur pays, quoi. On voyage beaucoup en France. Enfin, quand on fait la Bretagne dans Échappée Belle, je pense qu'on peut le faire 50 fois. Il y a un attrait... pour les régions, qui est très très fort pour les régions de France. On est aussi dans une émission, moi j'aime bien parce que c'est des profils de globe-trotteurs, mais très attachés on est tous très attachés à notre région. Je parlais des Deux-Sèvres pour Jérôme, moi je suis haut-savoyard, ça veut vraiment dire quelque chose pour nous, c'est assez marrant. Tiga, elle est originaire des Landes, elle parle beaucoup de ces Landes, donc il y a aussi cette fibre-là. Ouais. Et ensuite, il y a une question budgétaire évidemment, produire des émissions à l'autre bout du monde, c'est des coûts très élevés, c'est des temps de voyage beaucoup plus longs, c'est un peu problématique, mais on y tient quand même parce qu'il y a beaucoup de critiques sur le voyage aujourd'hui, sur les émissions carbone qui sont liées, etc. Ça, c'est aussi une donnée prise en compte au sein d'Échappée Belle, c'est d'être le plus responsable possible, mais ça ne veut pas dire le repli sur soi non plus. On a une mission de montrer comment vivent les autres cultures, quoi.
Est-ce qu'il y a un lieu où vous rêvez de poser les pieds où vous n'avez pas pu pour l'instant aller ?
Pour Échappée Belle,
oui, pour l'émission.
Alors, moi, je rêve d'aller en Antarctique.
L'appel du froid, encore.
Oui, parce que j'y ai beaucoup travaillé et que j'aimerais beaucoup présenter ce lieu qui me tient énormément à cœur aux gens qui regardent Échappée Belle. Et Échappée Belle n'y est jamais allé. C'est difficile de trouver une destination où Échappée Belle n'est jamais allé. Je crois qu'on en est à plus de 500 émissions. J'aimerais beaucoup aller en Antarctique et emmener les gens dans ce qui, moi, m'a beaucoup fait en tant qu'homme, de vivre dans ces coins-là.
C'est quoi la sensation importante dans cette région d'Antarctique?
C'est que ce sont...
Alors, solitude.
Pour tout vous dire, moi, j'ai commencé ma carrière de guide. J'y étais déjà allé un peu avant, mais le moment marquant dont je me souviens, c'est qu'il y a eu les attentats du 13 novembre 2015. Moi, j'habitais dans la rue d'un des bars qui a été mitraillé. Et juste après, je suis parti en Antarctique. J'ai passé un mois et demi là-bas. C'était ma première saison après les attentats. Et cet endroit, j'étais avec ma femme, cet endroit nous a permis de nous remettre sur pied. Parce que la beauté des paysages, la grandeur des lieux, le lien à la nature qui est très fort, les animaux ne sont pas chassés là-bas, ils s'approchent de vous, il y a un lien très fort avec les baleines, les manchots, etc. Plus les gens qui étaient tous un peu moroses et qui arrivent là-bas et vos passagers, vous sentez qu'ils vont mieux, et bien j'espère pouvoir transmettre ce sentiment-là, à quel point la nature sauvage peut amener cette douceur, quoi.
Ça vous a permis de vous guérir, entre guillemets, c'est ça, ce voyage ?
Ah mais totalement, c'était fou. Et je pense que j'aimerais montrer ça dans une émission et montrer à quel point les passionnés qui vont là-bas aussi ont beaucoup de choses à transmettre.
Damien.
Allez, on prend une question de Sandrine qui aimerait savoir si on doit toujours être écolo lorsqu'on présente une émission de voyage.
Alors, pas du tout.
Pas du tout.
Non. D'ailleurs, surtout, moi, je crois qu'il faut être le moins possible dans toute forme d'idéologie, quelle qu'elle soit. Parce que sinon, on se ferme à des millions de gens. Et puis après, je crois qu'aujourd'hui, les gens en ont un peu marre que... je vais le dire un peu comme je le pense sincèrement, que des gens comme moi qui ont la chance d'être payés pour voyager, pour parcourir le monde, etc., viennent leur donner la leçon de ce qu'ils doivent penser. Je pense qu'on a tout intérêt aujourd'hui à être plutôt discret. Ça ne nous empêche pas d'avoir des engagements dans nos vies privées et de faire ce qu'on a à faire. Évidemment, le voyage, moi, comme quand j'étais guide touristique, il faut bien travailler aussi, donc je ne vais pas me flageller de prendre l'avion, très honnêtement. Mais par contre, la question n'est pas de savoir si on est écolo ou pas. On peut avoir cette fibre-là, mais il faut aller voir absolument tout le monde. Moi, ça, j'en suis vraiment convaincu, parce que sinon... on est dans une espèce de formatage de l'autre et notre vision, c'est justement d'être ouvert et de se laisser surprendre aussi. C'est ça qui est agréable, c'est de se laisser surprendre, c'est de sentir nos idées reçues changer. En fait, voilà, si moi, dans ce monde, aujourd'hui, on est beaucoup dans le pour ou contre, je peux réussir à amener un petit peu de nuance, bah, j'estime que j'ai une mission à faire ce boulot.
Alors, deux missions, on peut en parler, parce que vous n'êtes pas qu'un simple contemplateur. Hein, vous avez écrit un livre, c'était en 2019 déjà, La vie simple, dans lequel vous prenez un respect de l'environnement. Est-ce que vous avez mal à votre planète, entre guillemets, aujourd'hui ? Vous n'êtes pas trop inquiet pour elle, justement, à travers notamment les voyages que vous pouvez réaliser ? Ce que vous pouvez voir et ressentir ?
Je crois qu'on est tous, pour beaucoup, inquiets. En tout cas, ne pas l'être serait sans doute un petit peu irresponsable, parce qu'on voit bien, vous voyez, moi, je viens d'Annecy, en Haute-Savoie, il y a deux ou trois ans, le lac avait terriblement reculé, faute d'alimentation en eau liée à des saisons de neige de plus en plus compliquées. On le voit bien quotidiennement, je pense, maintenant. On voit bien les étés qu'on vit tous très, très chauds. Donc, cette inquiétude, évidemment, je suis comme tous les citoyens, je pense qu'elle nous touche tous. Après, moi, en ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai la possibilité de voir ce monde changer. Et dans les régions polaires, ça m'a énormément marqué. Je pense que c'est comme les habitants de Chamonix, on voit bien que les glaciers reculent à vue d'œil. Donc effectivement, j'ai mal à ma planète, mais en même temps, moi je suis persuadé que c'est dans les crises qu'on trouve une façon de se relancer aussi, de trouver de nouvelles possibilités de vivre ensemble, de nouvelles créations. Oui, le monde d'avant est en train de se terminer, mais le monde d'aujourd'hui et d'après offre aussi de nouvelles opportunités. Donc voilà, peut-être que cette crise, elle nous rappelle que des choses doivent changer et peuvent changer.
Un rappel alors. Damien, une dernière question.
Une dernière question signée Fabien. Comment envisagez-vous la suite de votre carrière à la télévision ?
Ah bien, pour être tout à fait honnête, Fabien, je ne l'envisage pas. C'est-à-dire que moi, je vis tout ça pleinement, intensément avec mes tripes. J'ai toujours un peu fonctionné comme ça. Et donc aujourd'hui, là, à l'instant T, c'est formidable et on verra bien ce qui se passe.
Mais est-ce que la carrière de Raphaël de Casabianca, qui était aux commandes d'Échappée Belle il y a encore 2 ans et demi, vous fait saliver, puisque lui, aujourd'hui, il est aux commandes de deux grosses marques sur le service public, sur France 2, Nos Terres Inconnues, Rendez-vous en Terres Inconnues. Ça, c'est quelque chose aussi voilà, que vous avez un petit peu en ligne de mire, on peut dire.
Alors, saliver, non, parce que ça sous-entend une forme de « j'aimerais avoir
oui,
sa place ».
Oui, bien sûr.
Très clairement, non, d'autant que je suis quand même pour quelque chose dans l'arrivée de Raphaël dans ses émissions, puisqu'à l'époque, Frédéric Lopez, dont je suis très proche...
Et le producteur, on l'appelle aussi.
Ouais, et m'avait dit, voilà, je vais arrêter la télévision, est-ce que tu connais des gens qui pourraient me remplacer ? Je ne connaissais pas Raphaël, mais j'étais très client de lui dans Échappée Belle. Je l'avais vu notamment dans deux émissions, une en Jordanie et une en Algérie, où je l'avais trouvé formidable, et j'avais dit à Fred, regarde ses émissions, il est super. Donc, je lui souhaite tout le meilleur. Après, évoluer vers d'autres émissions, se tenir ouvert à d'autres projets, évidemment, c'est le sens de la vie professionnelle. Mais voilà, moi, Rendez-vous en Terre Inconnue, c'est une famille professionnelle qui a été la mienne longtemps. On est encore très proches humainement aujourd'hui, mais ce que je souhaite avant tout à Raph, c'est d'illuminer ce programme et voilà quoi, parce qu'aujourd'hui, moi je vis des choses, encore une fois, que je n'imaginais pas vivre, donc j'envisage pas d'avenir en me disant, c'est comme les footballeurs qui disent je vais être au Real Madrid demain alors que je suis au PSG. C'est pas comme ça que je le pense, mais c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de vivre ça et Et tant mieux, j'en suis le plus heureux et j'espère surtout le partager à fond. Quoi. Voilà.
Vous restez encore un instant, Ismaël, avec nous pour conclure cette interview avec une rubrique qui s'appelle « Sucré-salé ». Alors, en effet, comme l'a dit Damien, c'est pas Top Chef, parce qu'on vous soumet deux propositions et évidemment, vous devez n'en choisir qu'une seule, la Polynésie française ou la Martinique.
Waouh, c'est chaud, ça.
C'est du voyage.
Je dirais la Martinique. Alors, pardon pour mes amis polynésiens, parce que j'adore la Polynésie française. Non, mais je dirais la Martinique parce que pour moi, c'était l'occasion de partir avec Théo, donc de vivre cette aventure à deux. Et dans ces émissions, on parle toujours de partage, partage, partage. Mais là, quand vous êtes deux, vous en parlez pas, vous le vivez. Et donc, il y a eu ce côté-là, cette magie-là avec Théo en Martinique qui était quand même très forte. Mais j'ai adoré tourner en Polynésie, évidemment.
Un ça déchirement, aussi, Sophie Jovillain ou Tiga?
Oh là, encore plus dur.
Je ne peux pas répondre à ça. C'est impossible.
Alors, un deuxième.
J'ai le droit de dire les deux ou pas?
Non, non, mais bon. Après, vous êtes invité, on vous respecte. Deuxième déchirement, Raphaël de Casabianca, dont on vient de parler, ou Frédéric Lopez?
Oh, wow, vous êtes très dur. Vous êtes très, très dur. L'un et l'autre, pour des raisons différentes. Frédéric, moi, c'est le. Bah, c'est l'homme qui m'a mis le pied à l'étrier de ce métier. C'est l'animateur avec qui j'ai le plus travaillé. Je ne dirais pas que c'est mon mentor parce que ce serait exagéré, mais il y a peu de gens que j'ai pu connaître dans le travail.
Une forme de filiation, non?
Ouais, vraiment. C'est-à-dire que souvent, Fred dit que... Un jour, il m'a dit que j'étais son frère professionnel parce que c'est des personnes comme ça. Vous ne savez pas pourquoi vous entrez dans la pièce. Il commence une phrase et vous la terminez. Ouais. Et on vit vraiment ça ensemble quand on travaille ensemble. Donc, j'ai cet attachement à lui qui est très fort. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré à l'époque où j'étais spectateur. Raphaël, je le connais moins personnellement. Par contre, ce que j'aime chez Raph, c'est son univers, quoi. C'est un garçon qui a un humour décapant, qui est fun, qui croit en la vie, qui croit en l'autre. Donc, je ne peux pas choisir. Mais par contre, j'ai travaillé 10 ans avec Frédéric Lopez. Donc, c'est sûr qu'à titre personnel et humain, on a cet attachement commun qui est profond. Quoi.
Un dernier choix, mais qui n'est pas un déchirement cette fois. Est-ce que vous pouvez... Paris ou Annecy, je rappelle que vous avez parlé tout à l'heure, ce qui est votre ville de naissance.
Eh bien, Annecy, parce que c'est là où je vais vivre bientôt. Et puis, c'est là où je suis né, c'est là où j'ai toutes mes racines. Mais moi, je fais partie des gens qui ont quitté Paris quand j'ai été papa, mais qui en gardent toujours un petit pincement au cœur parce que souvent, on dit les Parisiens, les Parisiens, les Parisiens. Mais moi, j'ai rencontré tellement de gens sympas, ouverts, et plein de ressources à Paris que moi, j'aime les Parisiens profondément. Quoi. Donc, je dirais Annecy pour vivre et toujours Paris dans un coin de mon cœur.
Merci Ismaël Khalifa d'être venu au Bastien. Je rappelle qu'on vous retrouve aux commandes du magazine Échappée Belle. C'est ce samedi en prime time sur France 5 pour un voyage en Martinique, une évasion et une expérience assez inédite. Merci encore d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous, surtout de m'avoir invité et aux gens d'avoir posé toutes ces questions.
Et le Buzz Télé revient demain avant le week-end avec un invité qui est un homme.
Oui, c'est l'une des légendes, hein. On pourrait le qualifier comme ça. Il a animé Langue de bois s'abstenir pendant un petit moment sur l'une des chaînes du groupe Canal et il revient aux commandes d'une émission culturelle, cette fois-ci sur CNews. Nous allons recevoir demain Philippe Labro qui viendra nous parler donc de sa nouvelle émission.
Voilà. Culturelle. Merci encore à vous et très bon voyage.
Ben merci, je viendrai demain parce que j'adore Philippe.
Ah, bah, tant mieux, bah, venez, vous êtes les bienvenus.
Venir vous voir.
Bienvenue donc.
Merci.
À bientôt.
À bientôt.